Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Au moins 12 morts et 15 blessés dans l'explosion d'une mosquée chiite en Afghanistan, une attaque dans le nord du pays. De nouveaux échanges de tirs entre Israël et la bande de Gaza, l'armée israélienne a mené dans la nuit des frappes aériennes dans le centre de l'enclave palestinienne. À l'approche de l'élection présidentielle dimanche prochain en France, l'appel du président de la Fondation de l'Islam de France, il évoque une obligation de mobilisation. Ralef Bencher sera l'un de nos invités. 21 avril 2002, 21 avril 2022, il y a 20 ans, l'extrême droite accédait pour la première fois durant la 5e République au second tour d'une élection présidentielle en France, anniversaire dans un contexte particulier à quelques jours de la présidentielle qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Plusieurs organisations dont la FAGE, le principal syndicat étudiant, se rassemblent ce jeudi soir devant le Panthéon à Paris. Elles appellent à voter contre Marine Le Pen. Dimanche, nous écouterons le président de la FAGE, Paul Maillot. Une victoire de Marine Le Pen pourrait impacter le tissu associatif, c'est ce qu'indique Jean-Éric Sandé, président de l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, vous l'entendrez. La guerre en Ukraine, les troupes russes intensifient encore leurs opérations dans l'est et le sud du pays. Un attentat en Afghanistan. Au moins 12 personnes ont été tuées, 15 blessées. Le bilan d'une explosion qui a frappé une mosquée chiite de Mazar-i-Sharif dans le nord du pays. Attentat revendiqué par le groupe État islamique. Déjà mardi, 6 personnes avaient été tuées, 24 blessées dans 2 explosions dans une école pour garçons d'un quartier de Kaboul largement peuplé par des membres de la minorité chiite Hazara. L'armée israélienne a mené dans la nuit des frappes aériennes dans le centre de la bande de Gaza. C'était après un tir de roquettes depuis ce territoire vers Israël. Peu après ces frappes israéliennes, 4 autres roquettes ont été tirées vers Israël où elles ont été interceptées par un bouclier antimissile. Cela fait craindre une nouvelle escalade militaire sur fond de tensions liées au lieu saint à Jérusalem. Des heurts ont eu lieu ce jeudi matin sur l'esplanade des mosquées. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit profondément préoccupé par la détérioration de la situation à Jérusalem. Le deuxième tour de l'élection présidentielle dimanche prochain, fin de la campagne ce vendredi à minuit, une campagne marquée par le débat de l'entre-deux-tours ce mercredi soir entre les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Avant ce scrutin, l'appel à la mobilisation du président de la Fondation de l'Islam de France, Ralef Bencher, rappelle notamment ce qui fait la cohésion nationale en France. Entretien.
C'est un état d'esprit d'homme à la fois calme mais déterminé à exercer son droit de vote et qui devient dans certains cas une obligation de mobilisation. Et si j'ai un appel à faire entendre, c'est que tous les citoyens, quels qu'ils soient, ne doivent pas déserter les urnes et a fortiori les citoyens musulmans doivent agir comme des citoyens qui s'acquittent de leurs devoirs aussi massivement aux urnes. Je ne les infantilise pas, je ne pourrais pas me permettre cela. Ce sont des citoyens mûrs, conscients des enjeux, et dans le secret de l'isoloir, ce sont à eux de se déterminer pour privilégier davantage la paix civile, la cohésion nationale, et ne pas aller vers des choix dont nous pourrons tous pâtir.
Cette mobilisation, elle est particulièrement importante pour cette élection.
De toute façon, notre démocratie française, dont certains disent qu'elle est fragile, qu'elle est fébrile, qu'elle connaît des moments difficiles, s'éprouve au moment d'une élection majeure comme l'élection présidentielle. Et a fortiori, pour le second tour de cette élection. Et donc la mobilisation doit être à la hauteur de tous les enjeux, pour quelque composante de la nation que ce soit, et en ce qui nous concerne, pour la composante islamique, afin de faire élire un président qui, un premier magistrat du pays, qui réponde aux défis, qu'il sache les relever, qu'il sache aussi réagir aux enjeux nationaux et internationaux.
Vous évoquiez la cohésion nationale. Pouvez-vous nous rappeler ce qui fait la cohésion nationale ?
C'est le fait de faire corps d'une même nation sans qu'il y ait un corps traditionnel et un corps périphérique, sans qu'il y ait des Français de souche et d'autres, des éternels issus de la diversité, de l'immigration, des quartiers difficiles, etc. C'est le fait d'avoir un destin commun, c'est le fait de faire partie d'une même communauté nationale, c'est s'acquitter ensemble avec tous les autres concitoyens des mêmes devoirs pour jouir des mêmes droits, c'est incarner la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, tous ensemble, sans exclusive, sans discrimination, et en plus, essayer et même s'investir pour régler les problèmes auxquels sont confrontés les citoyens français classiques, connus, de pouvoir d'achat, de chômage, les problèmes sociaux d'une manière générale, les questions de sécurité, à la fois à l'intérieur du pays, mais aussi dans notre propre continent, les relations internationales, les questions aussi de sécurité culturelle et identitaire, c'est ce que nous faisons, cette fois-ci de nos autres fondations de l'Islam de France, apaiser les tensions, régler les questions mémorielles, répondre aussi aux problématiques de bonne entente au sein de la nation. Voilà ce qui fait une société commune et une nation commune dont nous voulons tous qu'elle soit solidaire, fraternelle et prospère pour tous.
Et quelles sont ces dernières décennies les grandes mesures qui ont participé, selon vous, au renforcement de cette cohésion nationale ?
Cette tendance-ci. Il y a malheureusement des cas où l'on a érigé le discours de haine, le ressentiment, l'exclusion comme un programme de gouvernement. Nous l'avons entendu, et d'une manière injuste de la part d'un candidat polémiste qui était sous le coup de condamnation en justice et qui, curieusement, a été fabriqué quasi industriellement pour brocarder, vilipender, insulter et accuser injustement les citoyens musulmans dans notre pays et les résidents réguliers, je ne les oublie pas. Ça a beaucoup miné cette cohésion et cette entente nationale, hélas. Et d'un autre côté, bon, il y a aussi, même si on ne le voit pas beaucoup, une manière à l'œuvre que nous voyons de se rendre compte que la nation française évolue, bouge, elle est dans un dynamisme et apparemment pour nos compatriotes, les questions identitaires et d'insécurité culturelle ne sont pas au premier point. La preuve, c'est celui qui les a portées à outrance n'a récolté que 7%.
Cette même personne, vous parlez d'Éric Zemmour, qui était candidat au premier tour de l'élection présidentielle et qui appelle à voter aujourd'hui pour la candidate du Rassemblement national.
Et je laisse l'intelligence de nos compatriotes être à l'œuvre pour savoir si on l'écoutera ou pas.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Bencher. 21 avril 2002, 21 avril 2022, c'était il y a 20 ans, l'extrême droite accédait pour la première fois durant la Ve République au second tour d'une élection présidentielle en France avec la qualification de Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Un anniversaire dans un contexte particulier à quelques jours de la présidentielle qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Plusieurs organisations, dont la FAGE, le principal syndicat étudiant, SOS Racisme et l'UEJF se rassemblent ce jeudi soir devant le Panthéon à Paris. Ces organisations appellent à voter contre Marine Le Pen. Dimanche prochain, le président de la FAGE, Paul Maillot.
Effectivement, ça fait 20 ans jour pour jour que l'extrême droite et tout ce qu'elle représente est arrivé au second tour des élections présidentielles pour la première fois de l'histoire. Et en autant de temps, il y a bien des choses qui ont changé, d'autres non. Et ce n'a pas changé, en tout cas côté étudiant, c'est notre sentiment de révolte face à toutes ces politiques mortifères et abjectes que véhicule l'extrême droite aujourd'hui.
C'est un appel clair à se mobiliser dimanche prochain que vous lancez.
Oui, c'est un appel clair à se mobiliser pour le 24 avril, parce que nous sommes contre tout ce que représente aujourd'hui ce parti, contre l'obscurantisme, contre le repli, contre l'atteinte à nos droits fondamentaux, et c'est également parce qu'on est pour tout ce qui va à l'encontre de ça, parce que nous sommes pour l'éducation, pour la solidarité, pour la liberté et la démocratie, qu'on appelle ce 24 avril à faire barrage au Rassemblement national.
Et vous estimez que le renvoi dos à dos des deux candidats représente un danger aujourd'hui ?
C'est un danger, et ce rassemblement, et en tout cas cet appel, ne valent ni ne vaudront blanc-seing pour le futur président de la République. On le sait toutes et tous que ces cinq dernières années n'ont pas été à la hauteur, que ce soit sur des enjeux de lutte contre la pauvreté, la précarité, que ce soit sur les questions de climat, de considération des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, mais on saura le rappeler ça autant de fois que nécessaire, et c'est parce que réellement on ne doit pas laisser la flamme de la haine devenir un brasier qu'il faut qu'on puisse se mobiliser le 24 avril.
Vous ressentez de la part des étudiants une réelle volonté de mobilisation aujourd'hui lorsque vous discutez avec eux ?
Tout à fait, les étudiantes et les étudiants, malgré les années qui ont passé, toujours cette flamme qui continue d'être, qui continue d'exister, et qui a des une portée qui est forte et des valeurs qui le sont tout autant. C'est des choses qui sont conscientisées et qui, oui, effectivement, touchent particulièrement les étudiantes, les étudiants, les jeunes de manière plus large, et se mobiliseront encore 20 ans plus tard face à la haine.
Et ce qui s'est déroulé ces derniers jours à la Sorbonne avec des étudiants qui refusaient de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce n'est pas emblématique aujourd'hui de la situation actuelle ? Selon vous.
Non, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est emblématique. Et effectivement, on retrouve quelques étudiantes et étudiants qui, comme je le disais plus tôt, ont subi effectivement les politiques des cinq dernières années, mais qui sauront, en tout cas, je l'espère, faire le bon choix ce dimanche, parce que c'est impossible de comparer aujourd'hui un programme qui est celui du président et candidat actuel à celui de l'extrême droite et de tout ce qu'il représente.
Vous étiez tout jeune le 21 avril 2002. Comment cela vous est raconté aujourd'hui ?
Ça nous l'est effectivement raconté comme étant le plus gros électrochoc qui ait été vécu à l'époque, que de voir effectivement l'extrême droite arriver au second tour de l'élection présidentielle, qui est la plus haute fonction de notre République, et où aujourd'hui, effectivement, on a peut-être un peu moins ce déclic, et ça c'est du fait, comme je le disais plus tôt, de différents facteurs. Ça va être effectivement lié au faux des politiques rétrogrades qui n'ont fait qu'asseoir le lit de ces idées au fil des années, également des médias, d'avoir offert une scène peut-être trop importante à cette extrême droite qui n'a fait que banaliser les discours discriminants au fil des années.
Vous estimez aujourd'hui que ce discours a été banalisé par les médias ? C'est un reproche que vous leur faites aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Banalisé, ou en tout cas surreprésenté. Ce n'est pas que de leur fait, bien entendu, mais on a eu une concentration des passages médiatiques de la haine qui, effectivement, a eu au fil des années tendance à banaliser celle-ci.
Et alors que le résultat reste incertain pour dimanche prochain, il faudra tirer, selon vous, des leçons de cette banalisation que vous dénoncez ?
Oui, tout à fait. Plus jamais on doit se retrouver avec un entre-deux tours qui se fait de cette manière-là, ou en tout cas ne serait-ce qu'avec la possibilité pour des partis qui sont aussi nauséabonds, pour les termes, qui ont une politique raciste, antisémite, xénophobe, toutes ces choses-là, effectivement, c'est des choses contre lesquelles il faudra qu'on puisse davantage et activement lutter pour la suite, pour que plus jamais on se retrouve avec l'extrême droite qui arrive au second tour.
Le président de la FAGE, Paul Maillot. De nombreuses associations se mobilisent pour faire barrage à l'extrême droite. Jean-Éric Sandé préside le réseau international pour l'éducation par le sport, ainsi que l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire.
Il faut toujours rester vigilant, parce qu'il y a l'extrême droite qui est là, qui est très mobilisée, et le tissu associatif peut aussi être impacté. Nous qui faisons des missions d'intérêt général, par le biais de nos associations, surtout dans le sport, pour l'insertion des jeunes des quartiers prioritaires. C'est vrai que l'extrême droite, pour moi personnellement, et mes collègues aussi, présente un danger considérable. Donc on est vigilant, on continue à mobiliser les jeunes, les familles, pour qu'elles bloquent l'extrême droite. Mais il n'y a pas que l'extrême droite à bloquer, il faut qu'on apprenne aussi à voter pour.
Et vous nous dites que le sport contribue notamment à la déconstruction des préjugés, à la lutte contre les discriminations.
Tout à fait, le sport, ben, c'est déjà par ses valeurs, le sport c'est l'égalité, c'est vivre ensemble, c'est la tolérance. Ces questions de stigmatisation sont dues à quoi ? Sont dues à l'intolérance. Le sport, c'est aller vers l'autre, c'est se tourner vers les autres. Donc, c'est vraiment un outil. Et nous, on l'utilise. Hein. On l'utilise aussi dans le cadre de la déradicalisation. Hein. Je l'ai utilisé par rapport au programme, par rapport à des anciens pensionnaires de Pontourny. On mettait le sport justement pour déradicaliser. Donc, c'est toujours pour amener les citoyens, le sport, vers les principes de la République, les valeurs de la République qui permettent de garantir aussi le vivre ensemble.
Jean-Éric Sandé, président du Réseau international pour l'éducation par le sport, président de l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire. La guerre en Ukraine, les troupes russes intensifient encore leurs opérations dans l'est et le sud du pays. Dans la ville assiégée de Mariupol, les dernières forces ukrainiennes se sont retranchées dans le complexe métallurgique d'Azovstal. Hier soir, les autorités ukrainiennes ont accusé les troupes russes d'avoir empêché l'ouverture d'un couloir humanitaire. Les faits remontent au 13 mars dernier au Maroc. Un tribunal marocain a condamné mardi 8 supporters à des peines allant de 4 mois à 1 an de prison ferme pour leur implication dans des violences qui avaient émaillé un match de football à Rabat. Ces personnes sont notamment reconnues coupables de participation à des actes de violence et détérioration de biens d'utilité publique. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient et si on en parlait à 19h, le thème de l'émission, quelles conséquences internationales suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les invités d'Alexis Bachelet, Olivier Védrine, politologue, journaliste à la télévision ukrainienne et Jean-Éric Brana, maître de conférence à Sorbonne Paris 2, expert en relations internationales. Très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient. Radio Orient qui diffuse chaque nuit à partir de minuit durant le mois du Ramadan les prières Tarawih. Vous pouvez écouter l'ensemble de vos émissions sur votre site internet radioorient.com. Un très grand merci pour votre fidélité.